Le débat africain. Alain Foucault.
Elles ont brisé le mur de verre qui réserve cette activité, cette spécialisation aux hommes. Elles ont surmonté les nombreux obstacles et clichés qui expliquent qu'elles ne représentent aujourd'hui que 5% des chercheurs sur le continent. Mais ce déséquilibre numérique cache mal les parcours de certaines de ces guerrières, de ces amazones, de certaines femmes dans le domaine scientifique. S'il est clair, plus que jamais, notamment après cette pandémie du coronavirus où l'Afrique s'est retrouvée face à elle-même pour trouver des réponses appropriées, qu'elle doit développer d'urgence ses propres solutions, ses programmes et priorités de recherche, il devient vital de donner la place centrale qui est la sienne à la femme dans le domaine des sciences. Mais comment ? Comment faire tomber les freins, les préjugés, les stéréotypes qui font que dans les manuels de biologie à travers le monde, aucune femme noire n'est représentée une seule fois ? Ce dimanche, le débat africain donne la parole à ces femmes africaines qui ont cassé les codes et qui se sont illustrées dans le domaine des sciences afin qu'elles nous expliquent, qu'elles nous éclairent sur cette injustice et sur l'urgence de les associer et les accompagner un peu plus dans cette activité clé. Et comment ? Plusieurs d'entre elles au téléphone. D'abord, le docteur Amina Gherib Fakim, qui est chimiste, professeur de chimie organique avec une chaire dotée à l'université de Maurice. En tant que membre fondateur de l'Association panafricaine des plantes médicinales africaines, elle a co-signé la toute première pharmacopée africaine à base de plantes médicinales. Le professeur Amina Gherib Fakim, autre casquette, a été la sixième présidente et première femme présidente de la République de Maurice, fonction qu'elle a occupée jusqu'en mars 2018. Mais elle est d'abord et surtout une scientifique passionnée. Bonjour docteur Amina Gherib Fakim.
Bonjour Alain.
Notre seconde invitée ce dimanche dans ce débat africain consacré aux femmes africaines dans les sciences est Valérie Bonon, chercheuse ivoirienne sur la résistance bactérienne aux antibiotiques. Elle a co-lancé l'Observatoire des résistances des micro-organismes aux anti-infectieux en Côte d'Ivoire. Elle est membre du jury For Women in Science dont on parlera dans un instant. Bonjour docteur Valérie Bonon.
Bonjour Alain.
Notre troisième invitée en direct de Kinshasa est Nadège Tati, qui est doctorante en sciences dans le domaine de l'écologie et de la santé. Après son doctorat en médecine, ses recherches portent aujourd'hui entre autres sur, je simplifie, parce que les libellés des sujets de recherche sont un peu complexes et pourtant nous touchent de très très près. Comment diagnostiquer les vulnérabilités territoriales et mieux appréhender la gouvernance des maladies infectieuses comme le choléra, Ebola ou la Covid-19 au sein des pays aux ressources limitées? Elle va mieux nous expliquer en français facile dans un instant de quoi il s'agit. Il faut préciser que Nadège Tati est l'une des lauréates du prix Jeune Talent organisé par l'UNESCO et L'Oréal pour les femmes en sciences, édition 2020. Bonjour docteur Nadège Tati.
Bonjour.
Notre quatrième invitée est également une lauréate de ce prix Jeune Talent 2020 de L'Oréal et de l'UNESCO. Younoussa Aïfaou, qui est doctorante au laboratoire du Centre National de Transfusion Sanguine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Son sujet de recherche, et ça va intéresser beaucoup, j'en suis certain, elle est spécialisée dans l'identification des anomalies chromosomiques et moléculaires liées aux troubles du développement sexuel au Sénégal. Le but, en fait, est d'affiner le traitement chirurgical des patients concernés. Bonjour, docteur Younoussa Aïfaou.
Bonjour, Alain.
Et voilà pour notre plateau féminin de ce dimanche. Alors, qu'est-ce qui explique, Valérie Bonon, qu'il y ait si peu de femmes dans les sciences en Afrique, seulement 5% dans les chercheuses?
Effectivement, d'abord merci pour cette émission qui est vraiment bienvenue, qui est la problématique aujourd'hui. Pas seulement en Afrique, j'allais dire, partout dans le monde, les femmes ne sont pas très très bien représentées dans le domaine de la science, mais cette disparité est vraiment prononcée en Afrique et je pense que c'est fortement lié aux freins socioculturels. La place que la femme doit avoir dans la société, je pense que c'est l'un des freins majeurs à cette participation de la femme dans les filières scientifiques en Afrique.
Oui, mais comment ça se manifeste? Est-ce qu'on empêche aux femmes d'aller dans les filières scientifiques? Qu'est-ce qui explique cela?
C'est pas qu'on les empêche, mais je pense que c'est plus culturel. Mmh. Voilà, elles-mêmes, elles se bloquent toutes seules. Elles se bloquent toutes seules parce qu'elles se disent, est-ce qu'elles peuvent y arriver? Est-ce qu'elles ont la capacité d'y arriver? Parce qu'il y a la pression sociale. Vous savez, une femme en Afrique, son rôle, comme je disais, c'est être dans un foyer, faire des enfants, elle est rattrapée par
faire la cuisine, vous
savez. Mmh. Voilà, faire la cuisine. Et vous savez, quand on a un niveau supérieur universitaire, c'est quelque chose qui est très prenant. Et donc, elle peut ne pas forcément avoir le temps nécessaire à accorder à sa famille. Et quelquefois, elle fait des choix difficiles.
Younoussa Aïfaou, vous partagez le même point de vue, vous qui êtes à Dakar et qui venez d'un pays, puisque je pense que vous arrivez des Comores.
Oui, exactement. Effectivement, c'est le même problème partout en Afrique, comme dans le monde entier. Les femmes ont vraiment du mal à s'intégrer dans le monde scientifique. Et je pense que c'est dû aux stéréotypes, les idées reçues depuis des générations, comme quoi les femmes sont censées rester à la maison, se marier, s'occuper de leur famille, en fait. Mais ils ne sont pas censés faire des études supérieures ou bien s'engager dans un monde scientifique qui risque de leur prendre beaucoup plus de temps. Donc c'est effectivement la même chose partout.
C'est la même chose partout. Mais là, j'ai envie de poser la question à Amina, qui elle est à Maurice. Est-ce que c'est le même phénomène? Est-ce que ça s'explique de la même façon à Maurice où vous êtes? Vous qui êtes un peu la doyenne.
Vous savez, moi, si je prends mon cas en particulier, on m'a découragé de faire des études en sciences dès le jeune âge. Et on m'avait dit que c'était pour les garçons. Et si je revenais avec un diplôme en sciences, et surtout en chimie, qui était ma passion, j'allais pas trouver de l'emploi. Alors du coup, on est découragé dès le jeune âge. Et moi, je pense que, Alain, c'est là où le dégât se fait au niveau, surtout en Afrique, on n'encourage pas suffisamment les filles. Et on a parlé de stéréotypes. Oui, il y en a trop de stéréotypes. Si on regarde les manuels scolaires, c'est truffé d'exemples. Et comme vous avez dit, non seulement le genre féminin n'apparaît pas, et maintenant, la femme africaine ne paraît surtout pas.
Certainement
pas. Alors,
si on
peut vraiment faire des changements dans ce contexte, il faut regarder non seulement stéréotypes, il faut aussi regarder la structure, parce que la structure des écoles, tout ça, c'est pas vraiment fait pour les filles. Alors, pour avancer, il faut vraiment casser ces stéréotypes, il faut casser ces préjugés qui freinent beaucoup de filles.
Mais dans votre cas, comment vous avez fait pour faire tomber ces barrières-là, pour faire tomber ces codes et ces freins?
Pour moi, c'était assez facile parce que j'avais mon papa qui était derrière et lui, il voulait à tout prix que sa fille ait les mêmes chances que son fils. Alors du coup, j'avais vraiment un champion chez moi. Alors c'est ça qu'il faut pouvoir, des champions au niveau des oncles, des frères, des pères, qui poussent la fille pour lui dire qu'elle est capable de faire n'importe quoi. Et une fois que sa confiance est dopée, je pense qu'elle va pouvoir faire des miracles. Mais c'est là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de ces champions à la maison, dans la société, qui précisément tiennent à freiner les filles qui disent que la fille, c'est pour faire des bébés, pour rester à la maison, pour la cuisine, tout le reste. Mais si on va projeter le continent africain dans le 21e siècle, c'est là qu'il faut faire un effort singulier pour promouvoir la fille, parce que une équipe de foot, Alain, ne gagne pas le match si 52% de son effectif est sur la touche.
Ça c'est clair, ça c'est clair. En tout cas, on est là pour vous présenter, pour que ces filles-là comprennent qu'il existe des championnes et que la science est faite aussi pour eux. Nadège Tati, est-ce que vous qui êtes au Congo, vous avez rencontré les mêmes difficultés?
Oui, il y a les mêmes difficultés, c'est qu'il y a une exclusion sociale de la femme intellectuelle en général et de la femme scientifique en particulier. Et du coup, à cause du regard des autres, il y a certaines femmes qui n'arrivent pas au bout de leurs rêves. Je peux donner mon exemple. Lorsque nous sommes arrivés à l'unité de recherche qui est à la faculté de médecine, où nous avons commencé nos premiers pas dans la science, nous sommes arrivés, il y avait presque une dizaine de femmes, mais à ce jour, je suis restée seule. Les autres femmes sont parties. Ce que les gens, la plupart des gens disent, pour une femme, plus tu étudies, plus tu as moins de chances de te marier. Et cela fait que plusieurs femmes n'arrivent pas au bout de leur rêve. Et puis, une autre difficulté, c'est la difficulté de s'affirmer. Ce que l'aspect le plus frustrant est qu'en tant que femme, les gens ne vous accordent pas facilement leur confiance. Il faut prendre du temps, faire vos preuves. Oui, dans le monde scientifique, il faut faire vos preuves pour qu'enfin les gens vous fassent facilement confiance. Je donne encore un autre exemple. Je suis assistante de recherche là à la faculté de médecine ici à Kinshasa. Et dans mon unité de recherche, on a un master qui est rattaché à cette unité. Du coup, chaque année, on nous donne des étudiants pour les accompagner dans leur travail de recherche. Et la plupart de ces apprenants, ce sont des gens qui ont déjà eu à faire plusieurs années de travail. Donc, ils ont plusieurs années de terrain et dans la majorité, ce sont des hommes. Et une fois qu'on demande à ces personnes-là de s'approcher de moi pour que je les encadre, au début, en tout cas, la plupart des gens sont réticents, ils ont un regard un peu...
Ils se disent que je ne vais pas apprendre de cette femme-là, je crois que j'en sais davantage.
C'est une petite fille, c'est déjà une femme, et puis c'est une petite fille, j'ai beaucoup d'expérience plus que elle, vous voyez un peu tout ça. Mais c'est après que lorsqu'on prend le temps, et ils trouvent que non, c'est quand même une petite fille, mais elle connaît quand même quelque chose, c'est après que les gens m'accordent leur confiance. Donc il faut prendre du temps. Faire vos prêts pour qu'enfin ils croient en vous.
Alors, on sait que en Afrique, avant la Covid-19, peu de gens accordaient de l'intérêt aux chercheurs. On disait, ils cherchent, mais ils ne trouvent jamais rien. Et que les termes qu'ils utilisent sont totalement incompréhensibles des uns et des autres. Alors, est-ce que les femmes ne souffrent pas doublement de cette incompréhension vis-à-vis des chercheurs, Valérie Gonon?
En termes de termes scientifiques...
Oui, c'est-à-dire, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils cherchent, en fait? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que vous savez bien, le terme que l'on utilise en Afrique, ils cherchent toujours, mais on ne sait pas ce qu'ils trouvent.
Exactement, parce que je pense qu'il y a un grand complexe vis-à-vis de la recherche qui est faite en Europe ou dans les pays du Nord. Donc je pense que c'est ce complexe qu'il faut vraiment, décomplexer par rapport à ça. Il faut dire qu'on est capable de mener des recherches d'un niveau aussi important que les recherches menées dans les pays du Nord et à travers des programmes de recherche, des projets de recherche. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourra s'affirmer véritablement. Voilà, je pense que ça, c'est très important.
Alors Valérie, dans votre cas, par exemple, on dit vous faites de la recherche sur la résistance bactérienne aux antibiotiques et que vous avez co-lancé l'Observatoire des résistances de micro-organismes aux anti-infectieux en Côte d'Ivoire. Avouez qu'il faut avoir un certain niveau pour comprendre ce que fait Valérie toute la journée. En quoi ça consiste? Est-ce qu'il ne faut pas simplifier les termes pour qu'ils comprennent que ce que vous faites les touche directement, que c'est absolument important pour eux?
Vous savez que la recherche, c'est à plusieurs niveaux. Il y a tout ce qu'on fait de fondamental, après qu'il vient à la phase appliquée, que la population comprend beaucoup mieux. Pour la petite histoire, pour revenir un petit peu à ce que Amina disait, moi, quand j'ai fini mes études de médecine, j'ai un peu un double parcours. Je suis allée au laboratoire, justement, pour m'intéresser à tout ce qui est, j'aimais bien, les bactéries, parce que ma thèse a porté sur une résistance des bactéries isolées dans les blocs opératoires. Et comme ça, mes collègues qui me disaient, les promotionnaires, allaient dire, mais qu'est-ce que tu vas faire au laboratoire? Tu vas t'ennuyer, la recherche, c'est pas fait pour toi, pour les femmes, etc. Et puis petit à petit, j'ai passé mes grades, je suis aujourd'hui maître de recherche en bactériologie, biologie, donc ça paraît encore très, j'allais dire, barbare, tous ces termes, mais aujourd'hui, grâce à cet observatoire qu'on a pu monter depuis 2002, qui est ensuite, quelques années plus tard, en 2006, est devenu le centre national de référence de la résistance aux antibiotiques, aujourd'hui, depuis 2016, cet observatoire est aujourd'hui le secrétariat exécutif de tout ce qui est lutte contre la résistance aux antibiotiques dans le pays, vous voyez. Donc, progressivement, ça commence à être visible, l'impact au niveau de la société. Donc, on a aujourd'hui des programmes de formation avec les médecins, comment prescrire, comment mieux prescrire, comment gérer les antimicrobiens, comment éviter que les résistances des bactéries aux antibiotiques disséminent dans les milieux de soins ou dans la communauté. Vous voyez, ça se rapproche un peu plus.
Les gens comprennent déjà mieux de quoi il est question et que ça les concerne, c'est pas très abstrait.
Exact. Ce n'est plus abstrait, mais c'est important, cette première étape, j'allais dire scientifique, qui sous-tend. Vous voyez, l'argumentaire, pour pouvoir les emmener à modifier leurs pratiques, améliorer leurs pratiques.
C'est peut-être de ça que la recherche en général souffre, et les femmes un peu plus, non Nadège Tati. Dans votre cas, vous travaillez sur, je regardais un peu de quoi il est question, vous travaillez sur les je ne sais plus comment on dit déjà.
Sur les diagnostics des vulnérabilités territoriales.
Voilà, de quoi il est question. Peut-être qu'il faut expliquer, vous voyez, même moi, j'en perds un peu l'expression. Or, je pense que c'est quelque chose d'important. Je l'ai compris après qu'on me l'a expliqué, mais de quoi il s'agit concrètement?
Il s'agit de la cartographie des espaces qui sont plus susceptibles de développer des épidémies. En fait,
c'est-à-dire des endroits où pourraient se développer des épidémies.
Oui, des endroits qui sont plus favorables au développement des épidémies.
Absolument. Voilà. Comme Ebola, comme la Covid choléra, dont on parle aujourd'hui, comme le choléra.
Ah oui.
Donc cela peut permettre par exemple d'expliquer pourquoi on a eu Ebola dans la zone est du pays.
Ça peut expliquer, on a eu Ebola dans la zone est du pays, mais c'était pas dans toute la région. L'épidémie n'était pas homogène. Il y a eu des épidémies dans certaines zones, par contre, dans d'autres, il n'y a pas eu des épidémies. Voilà. Donc, on veut vraiment faire un diagnostic à petite échelle.
Alors, là, ça permet de comprendre très clairement quel est votre travail au quotidien. Est-ce que on ne souffre pas, les femmes chercheurs, les femmes en sciences ne souffrent pas beaucoup de ce manque de compréhension, madame Amina Gorif-Fakim?
Oui, effectivement. Bon, là, on a bien, on vient vient de constater qu'il y a un problème au niveau de la communication, communiquer la science pour que les gens comprennent ce qu'on veut faire. Mais au-delà de ça, je crois que toutes les dames ont précisé le problème de patriarchie qui existe en Afrique et on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que cette fille-là peut faire au laboratoire. Elle aurait dû se marier et faire des enfants et tout. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en Afrique, nous n'avons pas l'écosystème qui peut faire la promotion de la recherche et qui donne effectivement des débouchés pour des travaux, pour les emplois aux plus jeunes. Et c'est là un petit peu où le bât blesse. Nous devons travailler pour développer ces incubateurs pour que ça attire encore plus de jeunes vers l'aspect recherche, développement, innovation et tout le reste. Moi, j'ai peut-être le malheur ou bien le bonheur de travailler sur une thématique qui touche à tout le monde et tout le monde comprend. J'ai travaillé sur les plantes médicinales et les plantes aromatiques. Du coup, ça résonne avec le petit peuple. Mais moi, le problème c'est que ça ne résonnait pas avec mes pairs.
Ça résonne beaucoup sur le petit peuple aujourd'hui, surtout avec cette Covid-19 où tout le monde est dans l'incertitude. On ne sait pas avec quoi on va soigner le Covid-19. D'un coup, on se retourne vers les plantes médicinales et là, vous avez le vent en poupe. Mais on a le sentiment que lorsqu'on parle de ça, on parle encore des hommes. On pense à ceux qui sont dans des villages, à ceux qui sont cachés chez eux et qui donnent des potions. On pense moins à des chercheuses. Est-ce que ce n'est pas l'instant pour dire, voilà, venez vers nous, on vous propose des choses qui sont concrètes et qui sont mieux élaborées?
Mais c'est la femme qui détient les connaissances. C'est encore une fois là un stéréotype qui est très souvent partagé, que la femme n'y connaît rien, mais c'est la femme qui préserve ces données. Mais ce qui est désolant sur le continent africain, c'est qu'on ne transmet pas ces connaissances. La transmission, c'est dans l'oralité, ça se perd, et c'est pas suffisamment documenté. Et on sait très bien que 60% des médicaments qui sont vendus en officine ont 25% viennent directement des plantes médicinales. Et le continent africain, c'est un continent qui est très riche, qui est très divers, une diversité extraordinaire, mais on ne tient pas profit parce qu'on n'a pas suffisamment mis la structure pour développer ça. On ne peut pas blâmer les chefs d'État africains, du moins pour l'instant, parce que l'histoire postcoloniale du continent africain, c'est seulement à peu près 60 ans, et c'est maintenant qu'on commence à mettre les jalons et les structures pour faire avancer cette thématique. Mais maintenant, sans commencer à marcher, on doit commencer à courir parce qu'on doit faire ce qu'on appelle le fameux catch-up avec le reste du monde. Les besoins sont grands et ben voilà, les défis sont là. On a eu le Covid, on a eu Ebola, on a eu le Zika, entre autres, et effectivement, il y a une fille qui parle des maladies infectieuses. Le problème de la résistance aux antibiotiques, c'est un problème chronique en Afrique dont les défis de santé sont énormes. Mais comment s'y faire avec le talent féminin, c'est là qu'il faut vraiment avoir ce genre de débat pour montrer que la femme a des talents, a une intuition qu'il faut absolument capitaliser pour faire émerger non seulement la science, mais la science comme étant pour pouvoir des emplois, des créations d'emplois. Et c'est ça que le continent africain a besoin à partir de maintenant, 21e siècle et au-delà.
Mais on a le sentiment que dans le domaine scientifique, c'est un peu plus compliqué et on ne sait pas pourquoi, parce qu'on les voit apparaître comme chefs d'entreprise de plus en plus. On promeut les chefs d'entreprise femmes, on promeut les chefs d'entreprise dans les banques, dans les différents domaines. Mais dans le domaine scientifique, on a le sentiment que ça traîne un peu plus. Comment ça s'explique?
Ça traîne parce qu'on n'a pas créé l'écosystème qu'il faut pour valoriser les travaux de recherche. Si on a aujourd'hui Facebook, si on a Google qui émane effectivement des travaux des universitaires, c'est parce qu'il y a eu un philanthrope qui a donné un chèque pour que ces gens-là vont à Palo Alto, par exemple, pour faire enregistrer. Et c'est là le bât blesse, encore une fois, parce que nous n'avons pas la structure qui protège les données, les propriétés intellectuelles, qui protège les travaux de recherche, avec lesquels on peut déposer des brevets. Or, tout ça, c'est important pour que la recherche avance, et la recherche avance, le développement avance, et aussi l'innovation avance. Et ça, c'est ça un dialogue que j'ai toujours eu, que je tiens toujours, que investir, là j'utilise le mot très avec beaucoup de précision, c'est le mot investissement. On doit investir dans la jeunesse, on doit investir dans les infrastructures, on doit investir.
Alors comment investir dans cette jeunesse, comment investir dans la recherche? On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. On se retrouve très vite, restez à l'écoute.
Le débat africain. Alain Foucault.
La pandémie de la COVID-19 est venue en montrer l'urgence. L'Afrique a plus que jamais besoin de développer la recherche scientifique. Elle a plus que jamais besoin de développer ses propres solutions, adaptées à son environnement, de trouver des réponses appropriées. Ses programmes et priorités de recherche, elle doit pouvoir compter sur ses propres scientifiques. Ceci passe évidemment par le financement de la recherche, l'incitation à la formation des jeunes dans les domaines scientifiques. Elle ne peut, pour le faire, se passer de l'un des maillons essentiels de sa population, 52%. Celle qui, pour l'instant, semble ostracisée et confrontée aux clichés et barrières. Les femmes, qu'il faut prendre en compte, qu'il faut encourager et qui doivent, elles aussi, commencer à rentrer dans les manuels scientifiques. Elles existent et il faut les faire découvrir pour susciter des vocations. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche aux femmes africaines dans les sciences. Plusieurs leaders et lauréates en ligne au téléphone dans quelques capitales subsahariennes. D'abord, Dr Amina Gorib Fakim, qui est chimiste, professeur de chimie organique avec une chaire dotée à l'Université de Maurice. En tant que membre fondateur de l'Association panafricaine des plantes médicinales africaines, elle a co-signé la toute première pharmacopée africaine à base de plantes médicinales. Le professeur Amina Gorib Fakim, autre casquette, a été la 6e présidente et première femme présidente de la République de Maurice, fonction qu'elle a occupée jusqu'en mars 2018. Mais elle est d'abord et surtout une scientifique. Notre seconde invitée ce dimanche dans ce débat africain consacré aux femmes africaines dans les sciences est Valérie Bonon, chercheuse ivoirienne sur la résistance bactérienne aux antibiotiques. Elle a co-lancé l'Observatoire des résistances des micro-organismes aux anti-infectieux en Côte d'Ivoire. Elle est membre du jury For Women in Science. Notre troisième invitée en direct de Kinshasa est Nadège Tati, qui est doctorante en sciences dans le domaine de l'écologie et de la santé. Après son doctorat en médecine, ses recherches portent aujourd'hui, entre autres, sur, je simplifie un peu, parce que les libellés des sujets des recherches sont un peu complexes et pourtant nous touchent de très près. Comment diagnostiquer les vulnérabilités territoriales et mieux appréhender la gouvernance des maladies infectieuses comme le choléra, Ebola ou la Covid-19 au sein des pays aux ressources limitées. Elle va mieux nous l'expliquer encore en français facile dans un instant. Il faut préciser que Nadège Tati est l'une des lauréates du prix Jeunes Talents organisé par l'UNESCO et L'Oréal pour les femmes en sciences, édition 2020. Notre troisième invitée est également une lauréate de ce prix Jeunes Talents 2020 de L'Oréal et de l'UNESCO, Younoussa Aïfaou, qui est doctorante au laboratoire du Centre National de Transfusion Sanguine de l'Université Cheikh Kanta Diop de Dakar. Son sujet de recherche, et ça va en intéresser beaucoup, j'en suis certain, elle s'est spécialisée dans l'identification des anomalies chromosomiques et moléculaires liées aux troubles du développement sexuel au Sénégal. Le but, en fait, est d'affiner le traitement chirurgical des patients concernés. Voilà pour nos invités. Alors avant d'aller un peu plus loin, on était en train de faire le tour pour voir un peu en quoi consistaient vos travaux de recherche. Là, je me retourne vers Younoussa Aïfaou. En quoi consiste votre travail, concrètement?
Alors, mes travaux consistent surtout à, comme vous l'avez si bien dit, à affiner les travaux des chirurgiens. Pourquoi? Parce que les enfants qui sont nés avec des anomalies chromosomiques ou moléculaires, la plupart d'entre eux, surtout les troubles de développement sexuel, ils se retrouvent avec des organes génitaux externes qui sont ambigus. On n'arrive pas à les identifier, on n'arrive pas à les classer comme étant dans le genre masculin ou bien féminin. Mm-hmm. Donc la plupart du temps, ici en Afrique, les parents, parfois, ils imposent que leur enfant soit un garçon ou soit une fille. Donc, ce qui met les médecins dans un embarras, parce que les médecins ne peuvent pas en faire un garçon ou en faire une fille, alors qu'il y a l'origine exactement de cet enfant. D'où nos travaux principalement, c'est de faire c'est un transfert de technologie en quelque sorte, parce que ces analyses se font à l'étranger. Et justement, ici au Sénégal, on les sous-traite à l'étranger, ce qui revient tellement cher que la plupart des patients n'ont pas les moyens de les faire. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement mettre en place ces analyses afin de pouvoir faire d'identifier surtout les sexes chromosomiques de l'enfant, puisque c'est de là où part la différenciation sexuelle, c'est de savoir les sexes chromosomiques de l'enfant, et ce qui va orienter le médecin pour le traitement, que ça soit un traitement chirurgical ou bien hormonal, mais c'est ce qui va orienter le médecin à en faire un garçon ou bien une fille. Donc ces travaux sont très très importants parce qu'on a déjà eu des cas. Par exemple, on a eu un petit garçon qui a été lavé des anomalies de développement sexuel.
C'est-à-dire qu'il avait les deux sexes.
Voilà, en quelque sorte. Et son père, au début, il a cru que c'était un garçon, donc il a attribué le nom d'un grand marabout. Au final, on a constaté que ce n'était pas un garçon, mais vu que le père a déjà attribué le nom, que ça a un nom beaucoup plus valeureux, donc il ne voulait pas changer ce prénom. Il voulait garder ce prénom et du coup changer cette petite fille en un garçon. Et c'est quelque chose qui est très dangereux parce que à l'adolescence, il y a les caractères sexuels secondaires qui vont se développer. Donc cette petite fille va se retrouver avec des signes qui sont des signes appropriés aux garçons. Donc il va développer au-delà de ses problèmes à l'adolescence, il va développer aussi des troubles psychologiques qui seront très très importants parce que le sexe qu'on l'a attribué n'est pas vraiment...
N'est pas le sien.
Voilà, exactement. D'où l'intérêt de ces analyses. Au-delà de la détermination du sexe, nous faisons aussi des études chromosomiques, des études moléculaires, parce qu'on sait que la détermination via la différenciation chromosomique se fait par des gènes, en fait. Mm-hmm. Ce sont des gènes qui vont assurer la différenciation gonadique. Donc, on va au fond de ces gènes, juste pour savoir d'où vient l'anomalie et quel est le gène qui a été muté, qui est responsable de l'anomalie. Comme ça, on peut avoir un diagnostic beaucoup plus précis pour chaque patient et surtout adapter un traitement plus précis pour chaque patient.
On sait que généralement, lorsque ça arrive dans les familles africaines, l'enfant est ostracisé. Quelquefois, on l'accuse de sorcellerie, d'être un enfant de sorcier. Est-ce que c'est bien perçu là-bas lorsque vous travaillez dessus, ne serait-ce que par vos collègues ?
Alors, par mes collègues, je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus au courant de ces situations. Donc, c'est apprécié. Par contre, ce sujet est encore plus tabou. Donc, on n'a pas vraiment... J'ai déjà, d'ailleurs, eu un père d'enfant. Il a amené son enfant, mais vu que j'étais une fille, il a dit, alors que c'était un petit garçon de 8 ans, mais il a dit que non, ce sont des maladies taboues, on ne peut pas en parler, donc je ne veux pas qu'une fille reçoive mon enfant pour un traitement ou pour des analyses. Donc c'est beaucoup plus tabou et on ne comprend pas, alors qu'il y a un facteur qui favorise, c'est surtout les mariages consanguins. Ici en Afrique, il y a vraiment les mariages consanguins qui sont beaucoup plus abondants.
Notamment en Afrique de l'Ouest, oui.
Voilà, et donc ça c'est parmi les facteurs qui développent ce genre d'anomalie chromosomique. Il n'y a pas que les troubles de développement sexuel, mais d'autres maladies chromosomiques sont occasionnées par ces mariages consanguins. Donc il y a ces facteurs qui vont amplifier ces troubles et le fait de cacher, parce que ça reste un sujet tabou, on cache, donc on ne se rend pas à l'hôpital, il n'y a pas vraiment des études épidémiologiques ou des statistiques pour ces genres d'anomalies, donc c'est vraiment complexe.
Alors on a vu qu'avec la Covid, les gens ont pris conscience qu'il fallait développer des solutions africaines, qu'il fallait développer la recherche. Enfin, les chercheurs africains commencent à être pris en compte. Mais on a le sentiment qu'une fois qu'on a dit ça, personne ne semble vouloir financer tout cela, Valérie Bonon. Comment faire pour financer cette recherche et intégrer ces femmes ?
Mais écoutez, nous, pour l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a un fonds qui a été dégagé par le gouvernement pour pouvoir financer des projets de recherche qui ont été proposés par les différents centres de recherche au niveau du pays. Donc, pour ce faire, nous sommes actuellement sur les travaux de recherche pour essayer de comprendre un peu la dynamique. Actuellement, où je vous parle, je coordonne deux projets de recherche au niveau de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire pour essayer de comprendre un peu, par exemple, le niveau d'immunité du personnel soignant qui est au contact des malades, voyez. Mm-hmm. Donc, vous voyez quelle est leur immunité par rapport à de la population. Également, un autre projet de recherche qui est fait du concert avec d'autres structures de la place en partenariat avec une équipe du Nord.
Mais vous avez le sentiment qu'avec cette situation que l'on est en train de vivre, les pouvoirs publics, les autorités ont plus conscience qu'il faut mettre un peu plus d'argent dans la recherche.
Ah oui, ils ont totalement pris conscience. Parce que, en fait, la recherche, c'est quoi? Souvent, on est en situation de traitement, de curatif. Il faut prévenir. La recherche, c'est ça. C'est-à-dire, il faut anticiper. C'est l'anticipation. Voilà, c'est vraiment l'anticipation. Il faut investir et anticiper parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout à l'heure, on parlait d'Ebola, de Zika. Voilà, on est maintenant dans des pandémies mondiales et c'est important d'anticiper à travers des investissements importants pour vraiment prévenir tous ces grands fléaux qui, malheureusement, je pense que ça sera... On n'en connaîtra pas la fin avec Corona. Je ne vais pas prédire le pire, mais voilà, on connaîtra d'autres pandémies sûrement, donc c'est très très important, il faut anticiper.
Il faut anticiper. Nadège Tati, le Congo a connu Ebola, a connu d'autres pandémies. Avez-vous le sentiment que les pouvoirs publics aujourd'hui ont conscience que vous qui travaillez par exemple dans la géographie des zones à risque, il faut financer ?
La recherche pour le moment ne quitte pas la première ligne de priorité pour les investissements. Mais après, moi, je pense qu'on doit voir les problèmes d'une manière globale. Mm-hmm. C'est que il y a déjà le gouvernement à son niveau doit aussi prendre conscience de ces problèmes. Il y a les institutions dans lesquelles nous évoluons aussi. Il y a les bailleurs de fonds, il y a toutes les organisations internationales qui interviennent pour lutter contre ces épidémies, qui doivent prendre conscience de l'importance de la recherche, car c'est par la recherche qu'on peut mettre en place des dispositifs pour prévenir, car dit-on, vaut mieux prévenir que guérir. Nous connaissons qu'à chaque fois qu'on fait face à ces épidémies, il y a des pertes de vies humaines, il y a des impacts sur l'économie, il y a des impacts sociaux. Les dégâts sont beaucoup plus importants. Or, si on agissait avant les démarrages de l'épidémie, je crois que ça serait beaucoup mieux, on aura beaucoup plus gagné dans tous les domaines.
Alors, docteur Amina Gurib Fakim, vous qui avez été aux affaires, qui comprenez le fonctionnement de l'État, qui doit financer cette recherche? Comment faire pour que ça démarre, pour qu'on intègre les femmes aujourd'hui dans cette recherche-là? Comment procéder?
Oui, vous savez Alain, pendant trop longtemps, on a pensé que ce sont les agences externes du continent ou des pays qui doivent financer la recherche dans les pays. Or, ce n'est pas le cas. Et quand on regarde autour du continent africain, on regarde un peu partout, on voit que les pays peinent à dépasser le 1,1% qu'on demande du produit intérieur brut pour financer la recherche. Or, c'est ça qu'il faut. Il faut que le financement des priorités africaines vienne des pays eux-mêmes, vienne de la région. Et c'est là où le bas blesse, on ne finance pas assez l'éducation. L'éducation qu'on donne à nos enfants, c'est une éducation qui peut être désuète, hein, qu'il faut repenser. Et c'est là, encore une fois, où le bas blesse, parce qu'on n'investit pas assez. Là, je pèse le mot investissement, parce que ce ne sont pas des dépenses. C'est un investissement qu'on doit faire dans la jeunesse, dans les enfants, dans les filles, dans l'éducation des filles, pour que ces filles-là viennent, effectivement, ces chercheurs qu'on cherche au bout du rouleau. Et encore une fois, ces filles ne sont pas dotées d'une éducation adéquate dans les sciences comme il se doit, et c'est pour ça qu'il y a ce rejet plus tard. Et celles qui persévèrent, finalement, se retrouvent dans une université, dans un centre de recherche qui n'est pas équipé, et c'est là où, c'est dommage, mais on a effectivement les fuites de cerveau. Et heureusement qu'il y a des organisations comme l'UNESCO, L'Oréal, qui donnent des bourses pour que ces filles restent sur le continent, mais c'est pas assez. C'est pas assez parce que c'est un financement minime et ça doit être complémenté par un financement étatique. Et c'est là, encore une fois, où on échoue sur le continent africain. Et c'est là que je milite pour mettre en avant ce besoin de créer l'écosystème. Et c'est seulement en créant l'écosystème dans des pays qu'on va empêcher des morts dans la Méditerranée. Et Absolument. C'est le plaidoyer qu'on doit faire au niveau des pays, au niveau des États, au niveau des gouvernements, d'investir dans cette jeunesse, d'investir dans la recherche, d'investir dans l'entrepreneuriat. Parce que les filières qu'on développe au travers de cet investissement de la recherche, c'est ça qui va donner effectivement de l'emploi au final. Donc c'est l'investissement, ça doit être le dernier public des États dans leur jeunesse.
Voilà. Mais on doit quand même parler, Valérie Bonon, de cette initiative de L'Oréal et de l'UNESCO. De quoi s'agit-il? Qui est primé et dans quelles circonstances?
Alors, le programme UNESCO L'Oréal pour les femmes et la science prime un peu toutes les femmes, jeunes femmes, c'est pour les encourager hein, dans le domaine des sciences, de la vie et de la matière. Pour ce que j'ai pu voir depuis 2 ans que je suis dans ce jury, il y a beaucoup de candidatures dans les sciences de la vie, en sciences biologiques. Très peu de candidatures qui concernent les mathématiques, l'informatique, la chimie, la physique, l'ingénierie. Heureusement que depuis 2019, ils ont mis en place une édition chaque 2 ans, enfin spécial, pour vraiment encourager les candidatures dans ces disciplines-là qui sont vraiment très très peu prisées par les femmes.
Hein. Voilà. Younousa Aïfao, vous êtes une des lauréates de ce prix-là. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous donne?
Alors, premièrement, je pense que ça va vraiment m'aider à continuer et surtout à terminer mes travaux parce que j'ai été confrontée par ce problème de financement. J'ai fait presque 2 ans, j'avais pas assez de financement pour mes travaux. Donc, le prix est venu au bon moment. Ça va me permettre vraiment à avancer dans mes travaux de recherche. Mais c'est surtout que c'est un privilège parce que je pense que ça va m'ouvrir les portes vers faire vraiment de la recherche, faire le post-doc et travailler vraiment dans le domaine de la recherche, un domaine que je rêve vraiment, que j'aimerais bien continuer. Mmh. Et vraiment, ça va m'aider. Voilà.
Alors, Nadège Tati, on a souvent dit que les chercheurs ont cette attitude, on va dire, de fonctionnaires, c'est-à-dire ils ne comprennent pas qu'il faut qu'ils vendent leurs produits, c'est-à-dire qu'ils aillent à la recherche des financements auprès, on va dire, auprès des grands mécènes. Que répondez-vous à cela?
C'est vrai que les chercheurs ne vendent pas leurs produits, mais après, ça dépend vraiment pas totalement des chercheurs, ça dépend aussi de l'organisation de nos pays. Déjà, il n'y a pas des structures de valorisation et de transfert de résultats de chercheurs, déjà dans nos pays. Il n'y a pas des dispositifs qui permettent aux chercheurs de vulgariser leurs recherches. Déjà, en plus, on n'a pas des revues, par exemple, nationales qui sont quand même renommées. Actuellement, pour publier, pour être reconnu comme un grand chercheur, il faut publier sur Science, sur Nature, tout ça, ce sont des revues américaines. Et ça demande de l'argent. Il faut aussi bien maîtriser l'anglais pour faire la traduction de son article. Et même dans des revues internes ici, dans mon pays, je ne cite pas les noms des institutions, mais pour publier un article dans une institution où tu travailles, tu dois payer. Il y a une institution où on paye déjà $6 par page. Vous voyez déjà que tout ça, c'est ce qui fait aussi que les chercheurs ne publient pas trop. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de résultats qui sont dans les tiroirs.
Là, je vais revenir à Amina pour lui poser la même question. Est-ce qu'il ne faudrait pas une démarche pour aller vers les mécènes? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on comprenne que la recherche, c'est aussi un investissement, comme vous l'avez dit, et que quand on fait un investissement, on peut en attendre quelque chose?
Oui, et là, je voulais peut-être partager avec les autres dames là, que moi aussi, j'ai été lauréate, titrée lauréate UNESCO en 2007. Et c'est effectivement un prix qui vous ouvre les portes. Mmh. Alors, ça ouvre les portes au niveau de la crédibilité et aussi au niveau de l'acceptation des travaux de recherche, comme une dame vient de dire. C'est un prix qui est très important, qui est très prisé maintenant. Mais comme j'ai dit encore une fois, au-delà de l'investissement que les mécènes font pour la recherche dans des pays, L'Oréal et l'UNESCO font un travail admirable pour promouvoir, pour vraiment dénicher ces talents. Mais c'est encore une fois, c'est les États qui doit financer ces jeunes. Et là, on a parlé de la publication des travaux de recherche. Où est-ce qu'il y a, je pose la question, où est-ce qu'il y a sur le continent africain un journal qui est périodique, qui est réputé, qui peut-être rivaliserait avec, Journal of Organic Chemistry ou bien Phytochemistry à l'étranger? Alors, c'est ça la question qu'on se pose, on doit se poser. Où sont nos institutions sur le continent africain qui valoriseraient davantage, qui investiraient davantage dans ces travaux de recherche? C'est là, encore une fois, où on doit faire des efforts, et ces efforts viendront uniquement des pays ou bien de régions. Mais nous n'avons pas cette vision, on n'a pas cette volonté de faire, parce qu'on est, on fait dans l'immédiat, on finance des projets parce que ça donne des résultats ponctuels, qu'on fait avancer un problème, mais il n'y a pas cet investissement soutenu qui mènerait effectivement à l'émergence des filières, et on parle encore une fois de l'écosystème, on parle encore une fois de traduire ces travaux de recherche qui ne doivent pas finir dans des tiroirs pour que ça devienne précisément de l'emploi pour les jeunes, l'innovation.
Mais est-ce que les privés ne peuvent pas se lancer dans cette aventure? Ce n'est pas rentable à terme?
Les privés doivent le faire, mais le dialogue doit se faire entre État et privés. D'ailleurs, on regarde un exemple comme à la Corée du Sud, par exemple, il y a une démarche très très forte entre le secteur privé et le secteur public. Mmh. Et là, je mets l'emphase sur la Corée parce que 60 ans de cela, le per capita, comme on dit, de la Corée, c'était équivalent à un pays africain à l'époque. On sait maintenant, c'est devenu ce que c'est devenu de par la force de l'investissement secteur public, secteur privé, mais étatique.
On va terminer là-dessus en espérant que vous avez été entendu par ceux qui sont aux affaires, comme vous y avez été. Nous arrivons au terme de ce magazine consacré aux femmes dans les sciences. Merci Dr Nadège Tati, Dr Amina Gourib-Fakim, Dr Younoussa Aïfaou, Dr Valérie Bonon pour votre participation, en espérant que vous avez inspiré quelques femmes en Afrique, parce que vos parcours sont remarquables et très très inspirants. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.